Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
Bonjour messieurs.
Alors, dans tous les domaines, la pandémie a eu ses effets. Et tu veux nous parler du fait que dans la justice, les audiences en virtuel se sont installées pour rester. Une bonne ou une mauvaise chose?
Je dirais, Marion, que c'est une bonne chose. En fait, la pandémie est évidemment venue avec une vague de choses négatives, dont la perte de gens proches. Mais clairement, dans le système de justice, enfin, on arrive en 2021, je dirais. 40 ans, en fait, je dirais un peu plus de retard au niveau technologique. On est maintenant en virtuel. C'est une bonne chose et on prédit que c'est quelque chose qui risque de rester. Mais dépendamment de la matière, ça peut être positif comme négatif.
Dans quelles circonstances ça pourrait être négatif?
Ben, d'abord, commençons un peu par donner l'idée, en fait, l'image à des gens qui n'ont pas eu à être dans le système de justice là, en raison depuis la pandémie. Mais essentiellement, c'est qu'on procède en ligne, donc les avocats peuvent se connecter à distance, les clients également, et même les juges et le greffe, donc ceux qui notent les procès-verbaux. Et le côté négatif, c'est bien évident, Mario, que ça peut être au niveau de la justifier ou juger de la crédibilité d'un témoin. Quand on parle d'un témoignage qui est fait à distance, par voie technologique qui n'est pas tout à fait parfaite, ben ça peut être un défi de juger la crédibilité d'un témoin qui peut passer devant la cour.
OK. Est-ce qu'on l'utilise bien? Parce que souvent, quand on introduit une technologie, ça peut être une bonne technologie, mais les gens pas habitués ou les gens habitués à des vieilles méthodes vont introduire un peu la technologie, mais des fois, vont pas l'utiliser pleinement ou correctement.
Absolument, ça peut être un défi, comme tu l'as dit, pour les gens qui n'ont pas cette facilité-là avec la technologie. Rappelons quand même que la majorité, maintenant, ont des téléphones cellulaires, mais il y a aussi une partie de la population qui n'a même pas accès à ces technologies-là pour des raisons sociales ou des raisons de santé personnelle ou même d'âge. Mais je dirais que ça fonctionne quand même, somme toute, bien, avec certaines difficultés de connexion. Parfois, ça coupe. Parfois, l'image coupe. Le son peut être interrompu également, mais on y travaille. Et l'autre chose qui peut être négative, c'est le fait que la majorité des documents, des papiers, je dirais plutôt en criminel, restent des papiers physiques. Donc, tout ce qui est transmission de preuves ou partager des documents, ça peut devenir un défi là, au niveau du partage d'écran et surtout de la prise de possession de ces matériaux-là qui peuvent jouer dans la détermination d'un contre-interrogatoire.
Nada, dans le dossier de Paul Mukendi qui se poursuit parce que lui doit faire face à des années de prison pour un premier procès, mais doit faire face aussi à un deuxième procès pour des agressions sexuelles présumées. Et ça se fera, les procédures avec ou sans lui, là.
Oui, assez particulier. C'est un dossier qu'on rappelle, on attend en fait de le retrouver depuis cet été. Il a quitté les lieux. On confirme aujourd'hui par les autorités qu'il serait bel et bien au Congo. Et
mais c'est incroyable, là. C'est incroyable qu'avec un passeport, il est passé, il est sorti du Canada alors qu'il était supposé rentrer en prison. Là, il était jugé. C'est incroyable. Moi, je trouve cette histoire-là, quelle incompétence, quel pays pas sérieux.
Clairement, il faut se poser des questions sur comment il a fait pour passer à travers les mailles du filet, surtout en sachant qu'il avait déjà été déclaré coupable dans un premier dossier, attendait sa sentence. Et dans le deuxième, le procès avait débuté au mois de mai. Donc, l'émission de mandat, généralement, il peut y avoir des délais. Est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de les mettre? Ça, c'est une question aux frontières. Toutes ces questions se posent. On a réussi, en tout cas, à détecter où il était, à au moins également confirmer qu'il est en vie. Mais non seulement ça, il a publié, et on rappellera, des vidéos Facebook où il dit clairement qu'il veut fuir cette justice québécoise qu'il détermine comme étant injuste envers lui. Il ne voudrait pas revenir sur le territoire québécois.
Oui, parce que Nada, là, pour ce deuxième procès, normalement, un procès, ça se fait en présence de l'accusé, là. Mais il y a quelques exceptions qui font qu'on peut procéder malgré tout, même si la personne n'est pas là.
Donc, lui serait au Congo, puis on y ferait son procès à Québec.
Oui, et ce, sans qu'il soit présent, donc même la possibilité là, de le faire à distance, sachant qu'on n'est pas capable de l'attraper, là, clairement, ne sera pas une option pour lui. Et ce sera en son absence. Et certains critères qui ont été démontrés par la poursuite devant un juge, qui en ont dit, et il appuie cette décision-là, à un moment donné, la justice doit suivre son cours. Il a été accusé, il y a une victime également qui est toujours en attente que ce procès-là se déroule. Et donc, on est venu devant le tribunal pour démontrer qu'il s'esquivait et qu'il était dans l'intérêt de la justice qu'on procède dans ce dossier-là, même en l'absence de l'accusé. Puis aussi, on a réussi quand même à démontrer là, que d'abord, la victime est toujours intéressée aussi, qu'il y a preuve à faire devant le tribunal et que le procès était déjà également entamé. Et donc, pour garder cette justice-là dans un équilibre et surtout aux yeux du public, dans l'intérêt du public, le juge a tranché qu'on allait procéder en son absence. Et c'est chose quand même commune. Hein?
Oui, c'est commun parce que d'un, est-ce que on voit ça souvent et est-ce que ça change des fois le verdict parce qu'on comprend que ça ne doit pas être à l'avantage de l'accusé de ne pas être là?
Oui, c'est une bonne question, mais je tiens à rappeler d'abord que oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, même de façon plus micro, par exemple, pour des accusations moins graves. Rappelons qu'il était accusé de voies de fait et d'agression sexuelle sur une victime. Ça peut s'agir même de tickets, hein, messieurs, quand on ne se présente pas à la cour et qu'on, à répétition, sans justifier nos absences, le tribunal peut ordonner un jugement par défaut et nous déclarer coupable du ticket. Ça, c'est une chose en pénal. En criminel, maintenant, c'est différent. On va quand même tenter de rejoindre l'accusé et comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a des critères quand même à suivre. Est-ce que vraiment il s'esquive? Est-ce que c'est un individu qu'on a réussi à rejoindre? Connaissait-il sa date de cours? A-t-il pu être représenté par avocat? Mais ça peut arriver en matière criminelle de procéder en l'absence de l'accusé si on réussit à démontrer tout ça. Mais ça ne joue pas quant à sa culpabilité dans l'affaire. Le juge va quand même procéder à l'écoute de l'entièreté de la preuve de la couronne. Et rappelons là, que le fardeau est hors de tout doute raisonnable. Au pénal aussi, on va écouter s'il y a preuve à déposer. Le juge va en tenir compte, écouter le témoin et juger s'il y a doute raisonnable ou pas.
Mais est-ce qu'il y a un avocat de la défense dans ce cas-là?
C'est une autre excellente question. Parfois, il peut être représenté s'il a un mandat clair, mais très rarement, messieurs, quand on n'a pas d'avocat, c'est souvent là, en fait, que ça va arriver qu'il va y avoir du jugement par défaut et qu'on risque de procéder en l'absence de l'accusé. Généralement, quand il y a avocat, le client est présent pour le temps des procédures. Et ça peut être une stratégie aussi en, au niveau de la défense, même quand on est représenté par avocat et présent, de ne pas présenter de défense et laisser le juge déterminer s'il y a doute raisonnable. Mais évidemment, sur cette histoire, je conseille aux gens d'être représenté par avocat et de s'assurer de ne pas manquer leur date de cours. Et s'esquiver n'est certainement pas la bonne chose à faire.
Mais lui, mettons qu'il est... Prenons le scénario où il y a son nouveau procès, en son absence, comme tu viens de le décrire. Il est condamné, je sais pas, une couple d'années de prison. Là, il n'y a pas de traité d'extradition avec le Congo. Donc, l'effet, c'est juste qu'il ne peut plus jamais revenir au Canada. Là.
C'est évident que là-dessus, la question se pose. Et effectivement, on va regarder... D'abord, première chose que tu as mentionné, Mario, c'est important de le dire au public. Le procès va se tenir. Si la décision est une décision de culpabilité, le juge aura pouvoir et possibilité de rendre donc sentence, sentencer cet individu-là en son absence et sans qu'il y ait de représentation faite de sa part. Mais effectivement, là, la question se pose plus au niveau international, fédéral, du fait qu'on n'a pas de rapport, en fait, d'entente internationale avec le Congo pour l'extradition.
On n'ira pas le chercher.
Exactement. On n'ira pas le chercher, puis s'il vient ici, ben il risque de se faire attraper. Mais il sera sentencé, et ce, dans deux cas, possiblement, s'il est déclaré coupable dans le deuxième.
Autre dossier, un procès qui doit être repris, un nouveau procès, parce que il semble que le juge de première instance aurait démontré des préjugés.
C'est quand même intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'un dossier qui date des années 80. C'est une décision de la Cour d'appel qui vient de sortir en suivant un premier procès qui s'est déroulé donc devant la Cour du Québec. Il a été déclaré coupable de gestes sexuels, entre autres envers des membres de la famille. Donc, c'est assez particulier. Il était âgé de 78 ans à l'époque. On parle, en fait, aujourd'hui, et on parlait d'événements de 1972-1988. Et le juge, dans sa propre décision, aurait mentionné, et lui-même fait une mise en garde suivant ses commentaires, aurait souligné, entre autres, la particularité morale de l'individu, puisqu'il faisait partie de clubs d'échangistes et nudistes. Et c'est peut-être en raison, en fait, de cela que cela a influencé, entre autres, la crédibilité, selon lui, de l'individu et penché vers une déclaration de culpabilité, qui étaient les deux points qui étaient soulevés. Et la Cour d'appel vient mentionner que ça nécessite donc, dans ce cas-ci, un nouveau procès basé sur ces préjugés-là que le juge aurait eu en condamnant cet individu. C'est quand même assez intéressant.
Merci, Nada. À demain.
Merci, messieurs. À demain.